Nous allons continuer les quelques réflexions sur cette troisième rencontre de Jésus, si nous prenons la manière dont nous avons ponctué ce début de l'évangile de Saint Jean. Je vous avais dit que nous pouvions, à partir de la grande affirmation de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu ». Celui qui a l'épouse et l'époux, ces deux grandes lumières de Jean-Baptiste sur Jésus, nous permettent, je crois, de ponctuer de cette manière ce début de la vie apostolique de Jésus, le cycle de l'agneau qui est réservé aux brebis d'Israël. Le cycle de l'agneau qui montre les trois grands gestes de miséricorde de Jésus, comme agneau. L'agneau, c'est la miséricorde. Et le cycle de l'époux qui nous fait comprendre les trois grandes rencontres de Jésus au-delà du peuple d'Israël. Le dépassement à l'égard du peuple d'Israël. C'est la rencontre avec la Samaritaine. La Samaritaine, c'est la sœur séparée. Elle n'est pas tout à fait dans l'orthodoxie. Les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. La rencontre de Jésus avec le petit Basileus de Capharnaüm. Ce Basileus de Capharnaüm n'est pas croyant. Il ne fait pas partie du peuple d'Israël. Et puis, en dernier lieu, Jésus à Jérusalem, de nouveau. Jésus en présence de cet infirme à la piscine de Bethsaida. En présence de cet infirme, le doyen de cette communauté. Cet infirme qui est là depuis 38 ans. Alors il faut entendre saint Augustin. 38, c'est-à-dire 40 moins 2, n'est-ce pas? Et 40, c'est l'âge plaigné de l'humanité. Et Jésus arrive 38 ans, l'humanité qui est infirme depuis 38 ans. Et cet infirme, qui est le doyen de cette communauté, que Jésus regarde directement. Et Jésus lui pose la question, veux-tu guérir? Et cet infirme est dans l'impossibilité d'exprimer son désir. Tellement il est dans un état ultime de désespoir. Il est entièrement enveloppé d'amertume. Et quand Jésus lui dit « Veux-tu guérir ?», il exprime tout simplement en face de Jésus l'état dans lequel il se trouve. Et il nous révèle le climat de la charité fraternelle de cette communauté. Dès que l'ange a agité l'eau, le temps qu'il court là-bas, quand on est infirme, on est plus longtemps que les autres, forcément, un autre passe devant. Et c'est lui que Jésus regarde. Et Jésus le regarde le jour du sabbat. Or, si vous regardez attentivement, autant qu'on peut avoir découvert le lieu de la piscine de Bethsaida, c'est pas loin du temple, tout près de la basilique Sainte-Anne des Croisés. Et nous sommes là en présence de tous ceux qui sont comme rejetés du peuple d'Israël, comme excommuniés, comme des maudits de Dieu. Vous voyez, plus encore, vous voyez, que qu'on dirait aujourd'hui tous ceux qui sont en dehors de la communauté, qui font partie des rejetés. Là, il y a non seulement rejetés de la communauté humaine, mais rejetés de la communauté religieuse. Et Jésus fait cette demande et ce miracle, Jésus lui dit « Prends ton grabat et marche », Jésus fait ce miracle et donne cet ordre le jour du sabbat. Jésus ne fait pas ça pour scandaliser, hein. Pour scandaliser ceux qui sont pharisiens, ceux qui sont saisis par la loi. Ici, on ne parle pas du reste des pharisiens, on parle simplement les juifs. Disait donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton grabat. C'est net. Aux yeux de ces juifs, cet infirme qui porte son grabat le jour du sabbat commet une infidélité à la loi. Pas nécessairement un péché, mais une faute dont il faut s'accuser au chapitre, n'est-ce pas ? Ça fait partie des fautes extérieures par rapport à la communauté. Tu portes ton grabat le jour du sabbat, c'est pas permis. Il ne t'est pas permis d'emporter ton grabat. Évidemment, il regarde ça de l'extérieur. Cet homme aurait pu répondre, hein, depuis combien de temps je suis immobilisé et à un sabbat forcé? J'en ai fait plus que vous. Il aurait pu répondre ça, hein. Ça aurait été une certaine réponse qui n'aurait pas satisfait du reste, hein, sûrement pas. Parce que quand on est pour la loi prise d'une façon matérielle, on ne regarde pas les circonstances extérieures. On ne regarde que la loi, que la lettre, et puis c'est tout. Et on ne comprend pas pourquoi ce geste est fait. C'est l'application rigoureuse de la loi, la justice, légale. Si on n'applique pas la loi, on est condamnable. Alors la grosse question, vous voyez, que nous devons nous poser au point de vue théologique et au point de vue interprétation de ces gestes de Jésus. Pourquoi Jésus fait-il ce geste le jour du sabbat? Je vous ai dit la dernière fois, mettant toujours en parallèle la purification du temple et puis la purification du sabbat. Et c'est mis dans deux contextes différents. La purification du temple, c'est l'agneau, et la purification du sabbat, c'est l'époux. C'est pas pour rien. Toute la liturgie du sabbat est liée à l'époux. Je dirais, c'est assez beau à ce point de vue-là. C'est le don gratuit de Dieu qui vient, c'est Dieu qui vient et qui se donne. Et c'est Jésus comme époux, je crois qu'on peut le dire, qui fait ce geste le jour du sabbat. Alors je crois que c'est pour enseigner à son peuple le dépassement de la loi, le dépassement d'une loi prise matériellement, littéralement, la lettre tue, et d'entrer dans les intentions du législateur. Les intentions du législateur, c'est de faire que le sabbat, c'est d'être uni profondément à la miséricorde de Dieu. Le sabbat est fait pour l'homme, pour son salut. Le sabbat est lié au repos contemplatif du Créateur, pour que nous-mêmes nous comprenions notre finalité. L'homme n'est pas fait premièrement pour le travail. L'homme est fait premièrement pour l'adoration et la contemplation. Et le sabbat est là pour rappeler à l'homme sa finalité profonde. Et la finalité profonde de l'homme, c'est l'adoration et la contemplation. Et l'homme a pris possession du sabbat d'une manière juridique. C'est ça le juridisme, hein. C'est de prendre possession d'un précepte de Dieu pour le ramener à une dimension humaine. Il y a un moralisme et un juridisme Le moralisme et le juridisme, c'est oublier la finalité et ne regarder que la manière dont on applique un précepte, en oubliant complètement l'intention profonde du législateur. Et alors on ne regarde plus que l'aspect extérieur, l'aspect formel. Est-ce qu'on a appliqué la loi ou qu'on ne l'a pas appliquée? Et on ne regarde plus la finalité, l'intention profonde. Or, l'intention profonde du législateur, à l'égard du sabbat, c'est que Israël, le peuple béni, le peuple choisi, n'oublie pas de servir Dieu en premier lieu, de l'adorer et de l'aimer. Et on a pris possession de ce précepte, de ce commandement, en ne voyant plus que l'application matérielle. C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de prendre ton lit, ton grabat. C'est très significatif. Alors que le sabbat est en vue du point de vue de l'adoration et de la contemplation. On ne regarde pas le point de vue de l'intention si on vit le sabbat ou si on ne le vit pas. On regarde que l'application matérielle. Et Jésus est là pour rappeler l'intention profonde du sabbat. Le sabbat, c'est ce qui est l'âme de toute la loi. Ce n'est pas directement dans la loi, le sabbat. C'est quelque chose de plus radical que la loi. C'est l'exigence première de l'adoration, et l'exigence première de l'adoration, tel jour. Pour que l'adoration soit pleinement et totalement vécue. Et pour faire comprendre comment les Juifs matérialisent la loi et oublient la finalité de la loi, et ceci est particulièrement visible lorsqu'il s'agit du sabbat, Jésus fait ce miracle le jour du sabbat. Du reste, Jésus donnera l'explication après dans l'évangile de Saint Jean, nous le verrons. C'est pas quand il montrera que personne considère qu'il est contre le sabbat s'il sauve un âne qui est tombé dans le puits. Il n'hésite pas de le faire. Et quand il s'agit de sauver un homme et de rendre la vie à un homme, alors à ce moment-là, on attaque, on condamne. Oui, rétablir, ça je crois très important, rétablir la vraie finalité du sabbat. Le sabbat est pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Jésus, en faisant ce geste, redonne au sabbat toute sa signification. La vraie signification du sabbat, c'est de sauver l'homme. Et pour qu'on puisse le comprendre, il le sauve d'une façon visible. Mais en même temps, le sauvant d'une façon visible, il lui rappelle l'exigence de ne plus pécher. Ce qui fait comprendre que si Jésus a fait ce geste le jour du sabbat, c'est pas simplement pour lui donner la santé physique. C'est pour lui donner quelque chose de beaucoup plus. Voilà que tu as recouvré la vie, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et Jésus, en faisant ça, nous fait comprendre, justement, que ce geste qu'il a fait le jour du sabbat, c'est en réalité pour libérer l'âme. Et pour sauver l'âme. Pas simplement donner la santé du corps. Jésus n'accomplit jamais un miracle uniquement pour un bien physique. Il accomplit toujours en vue d'un bien spirituel. Et c'est souligné ici. Et que si on ne regarde que le bien matériel, on descend encore plus bas. Parce qu'alors à ce moment-là, vous voyez, on se sert de la toute-puissance de Dieu. Alors, la toute-puissance de Dieu intervient pour le miracle en vue de redonner le sens de la vraie finalité, donc pour aimer. Et ici on pourrait dire pour adorer et contempler. Saint Jean souligne, parce que ça fait partie des griefs que saint Jean souligne très profondément. Je crois que c'est un des aspects très importants de l'évangile de saint Jean, cela. Sûrement que Jean a souffert plus que tous les autres apôtres de sentir combien le peuple d'Israël s'est opposé à Jésus. Combien le peuple d'Israël a refusé. Et il a voulu comprendre à partir de quel moment les oppositions se sont faites. Il les souligne progressivement dans son évangile. Ici, il montre bien. Quand Jésus a purifié le temple, il n'y a pas eu d'opposition. Mais quand Jésus purifie le sabbat, il y a une opposition. Et une opposition qui commence. Et saint Jean, qui a souffert profondément de voir que le peuple d'Israël, de voir que les grands prêtres s'opposaient à Jésus, essaie de nous donner l'intelligence de cette situation. Comment on en est arrivé là ? C'est vrai, quand vous lisez la manière dont saint Jean montre la dernière semaine, et surtout la manière dont Jésus est condamné à mort par les grands prêtres, on voit que pour le cœur de Jean, qui aimait Jésus et qui aimait son peuple, et qui avait un respect vis-à-vis de l'autorité des grands prêtres. On voit que pour Jean, ça a été le grand problème. Comment s'est-il, du reste, il le dit dans son évangile, il y a une page qui est tellement impressionnante, juste avant la grande semaine. Comment se fait-il qu'il y a eu cette cécité ? Alors je crois qu'il souligne, voyez, ces moments où de fait, extérieurement, le geste du Christ était condamnable, étant donné le sens que le peuple d'Israël avait de l'application de la loi. Jésus a agi contre une situation donnée, contre une manière de concevoir le sabbat, contre une manière de concevoir le sabbat qui était admise par tout le monde. Quand il s'agissait du temple, c'est un peu différent. Ce qui prouve que c'était depuis moins longtemps. Il n'y a pas eu d'opposition farouche comme ici. On lui a simplement demandé un signe. Ça prouvait qu'on n'approuvait pas et qu'on voulait que Jésus légitime son geste. On lui a demandé simplement un signe. Ici, on fait beaucoup plus. On l'attaque. On montre que faisant ce qu'il a fait, c'est contraire à la loi. Et parce que c'est contraire à la loi, Jésus se met dans une position qui n'est plus la tradition. Vous voyez la confusion entre tradition divine et tradition humaine. Comme c'est important de saisir cela. Parce que beaucoup de scandales viennent de là. Confusion entre tradition divine, adorée et aimer Dieu le jour du sabbat, ça fait partie d'une tradition divine. La manière dont on conçoit que le sabbat doit être un jour de repos, ça fait partie d'une tradition humaine. Et si cette tradition humaine est vécue d'une manière telle que le sens profond du précepte n'est plus vécu, Jésus ne peut pas accepter ça. Et Jésus est là pour redresser et redonner le sens à ce précepte fondamental qui est le sabbat. Il lui redonne une vraie signification, la véritable signification. Mais il fait ça en sachant très bien combien on va s'opposer à lui. C'est très curieux qu'on est toujours beaucoup plus sévère vis-à-vis d'une infraction à l'égard de petites traditions humaines qu'à l'égard de traditions divines. C'est très curieux parce que les gens sont toujours un peu fanatiques quand il s'agit de traditions humaines. C'est des choses beaucoup plus visibles. Le mystère de la tradition est une chose cachée que seule la foi atteint. Et parce que c'est seule la foi qui l'atteint, il n'y a pas de passion. On n'est pas passionné à l'égard des traditions divines. Tandis qu'on peut être passionné à l'égard de traditions religieuses qui sont humaines. Et alors à ce moment-là, on est dans une attitude d'opposition si quelqu'un vient rectifier cela de l'intérieur et montrer la vraie signification. C'est pour ça que ce geste de Jésus est si important. Et Jean insiste pour nous faire comprendre justement l'importance de ce geste et en même temps combien ça jouait profondément dans la vie du Christ. Et il leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille. Voilà donc pourquoi les Juifs n'en cherchaient que plus à le tuer. Saint Jean souligne que déjà là, il y a la condamnation à mort. Voilà donc pourquoi les Juifs n'en cherchaient que plus à le tuer. Parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait encore Dieu son Père, se faisant l'égal de Dieu. Donc il y a à la fois le fait de ne pas respecter matériellement le sabbat selon les coutumes, et puis Jésus, pour les élever plus haut, et leur faire comprendre qu'il y a quelque chose d'autre qu'ils ne voient pas, une vérité beaucoup plus fondamentale, mon Père œuvre jusqu'à présent, et moi aussi j'œuvre. Alors, à partir de ce moment-là, il y a une décision de condamner Jésus, parce que Jésus considère que Dieu est son propre Père, se faisant l'égal de Dieu. Nous y reviendrons là-dessus, parce que ça, c'est quand même un leitmotiv que nous retrouvons à travers tout l'évangile de Saint Jean. C'est ce qui fait comprendre comment l'opposition va grandir. Alors, avant d'entrer dans la dernière partie de ce premier moment de la vie apostolique de Jésus, c'est-à-dire à partir du verset 19 de ce chapitre 5, le grand discours du Fils. Jésus prit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, car ce que fait celui-là, le Fils aussi le fait pareillement. Là, nous entrons, si vous voulez, dans la dernière partie de ce début de la vie apostolique de Jésus. Alors, avant de regarder cela, avant de regarder ce grand discours, ça fait partie des quelques grands discours que Saint Jean nous donne. Hein. Le premier, c'était avec Nicodème. Le second, c'est avec la Samaritaine. Et le troisième, c'est Jésus face à ceux qui défaitent le combat. Alors avant de regarder cela, réfléchissons un instant, parce que je crois qu'il y a là quand même, au point de vue théologique, quelque chose d'important à souligner. Jésus se trouve en tant qu'époux dans la lumière que nous donne Jean-Baptiste. Il se trouve en présence de l'humanité dans une situation extrême, disons situation limite, ce concept de la philosophie moderne que nous pouvons très bien employer ici. Vous allez comprendre. L'humanité prise de manière concrète, c'est l'homme, la femme et l'enfant. Or, l'Écriture ne parle jamais d'une manière abstraite. On dit le monde, mais c'est sa totalité. Ce n'est pas une façon abstraite. On ne dit pas l'humanité. On dit les hommes. Et les hommes, concrètement parlant, c'est la femme, l'enfant et l'homme. La situation limite de la femme n'est pas la même que celle de l'enfant, et n'est pas la même que celle de l'homme. Or, c'est très curieux, quand vous regardez ce passage, Vous voyez que de fait, nous nous trouvons en face des trois situations limites, l'homme, la femme, l'enfant. La situation limite de la femme, c'est bien celle de la Samaritaine. Elle n'est plus aimée et elle n'aime plus. C'est ça la situation limite de la femme. Et elle est considérée aux yeux de tous comme une pécheresse. Donc elle n'a plus aucune dignité. Elle est vraiment rejetée, réduite à la corvée d'eau en plein midi. Je crois qu'on ne peut pas penser symboliquement, si vous voulez, et réellement, une situation limite plus grande que celle-là. Alors je dirais même au point de vue religieux, elle ne fait pas partie de la communauté orthodoxe. Elle est mise un peu à côté. Elle est pécheresse, femme publique, elle est pécheresse publiquement, elle n'est plus aimée, et elle n'aime plus. Réduite à la corvée d'eau en plein midi. La situation limite de l'enfant, c'est d'agoniser. Un enfant, c'est une promesse de vie. Un enfant qui agonise, il est en situation limite. C'est vrai, c'est une des choses terribles de voir l'agonie d'un enfant. Parce que c'est quelque chose qui est anormal. L'enfant, quand il est en agonie, met la famille en situation limite. Parce que lui est la promesse. La situation limite de l'homme, c'est d'être infirme, ne plus pouvoir travailler. Pour un homme, c'est rude. Infirme dans une communauté qui n'a aucun amour pour lui. Dans une communauté qui le rejette. C'est donc d'être isolé dans une communauté, parce que c'est pire d'être isolé dans une communauté que d'être ermite. Hein. L'ermite, ce n'est pas une situation limite, bien qu'Aristote dise que l'ermite est ou un dieu ou une bête. Enfin, on le sait bien, c'est où, hein. Quand il est un dieu, ce n'est pas une situation limite, quand il est une bête, ça peut être une situation limite, mais ça c'est de sa faute. Parce qu'il n'a pas à rester alors à ce moment-là ermite, hein, s'il n'a pas découvert sa contemplation. Tandis qu'ici, ce n'est pas de sa faute, il est un infirme. Et tous ceux qui sont autour de lui n'ont aucune considération pour lui. Aucune charité pour lui, aucun amour pour lui. Donc il est vraiment isolé, isolé dans une communauté où il voit, et c'est le supplice de Tantale, ça, c'est le supplice terrible, hein, il voit la possibilité de s'échapper, la possibilité d'être sauvé, qui est immédiat, tout proche. Et puis il ne peut pas. Puisque les autres passent devant. Je crois qu'on ne peut pas penser une situation limite plus terrible pour l'homme. Vous voyez, cette chose étonnante qu'on rassemble là, successivement, sans le dire du reste, mais simplement, ces trois situations limites, de la femme, de l'enfant et de l'homme. Et nous voyons Jésus face à cette situation limite de la femme, à cette situation limite de l'enfant, à cette situation limite de l'homme. Et nous voyons Jésus comme époux qui regarde la femme, l'enfant et l'homme. Ce regard de Jésus. Je crois que c'est pour que nous comprenions ce qu'est le mystère de l'époux. Vous voyez, comme les trois gestes de la miséricorde du Christ à l'égard des brebis d'Israël. Ces trois gestes de miséricorde, Cana, purification du temple, Nicodème, nous aide à avoir la théologie de la miséricorde de l'agneau. Et c'est par là que nous pouvons entrer dans la théologie de la miséricorde de l'agneau, comprendre ces trois modalités de la miséricorde. La miséricorde spirituelle, l'enseignement, la miséricorde pour rappeler, corriger le cœur et le convertir, et puis la miséricorde temporelle. Vous avez les trois gestes de miséricorde. Ici, nous pouvons comprendre les trois dimensions de la jalousie de l'époux. Le propre de l'époux, c'est le mystère de la jalousie de l'amour. C'est l'absolu de l'amour, l'époux. Et c'est la jalousie. C'est toujours lié à l'époux, la jalousie. La jalousie, nous savons très bien ce que c'est que la jalousie au niveau humain. Pas besoin de demander à notre voisin l'explication. Nous savons tout ce que c'est. Si vous ne savez pas, c'est triste. Parce que normalement, nous savons très bien ce que c'est que la jalousie. La jalousie, au point de vue humain, c'est d'ordre passionnel. C'est un manque de grandeur d'âme. C'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup de la regarder. Tandis que la jalousie de l'époux au niveau divin, c'est juste l'inverse. C'est pour ça, du reste, que le Saint-Esprit emploie, vous voyez, le même mot, c'est très étonnant, ça. Ce fait de la jalousie de l'époux, qui exprime la grandeur d'âme de l'époux, qui exprime le don total de l'époux, qui montre que l'époux, lorsqu'il se donne sans mesure. Il se donne totalement, il se donne lui-même. C'est ça la jalousie de l'époux. C'est un don qui est le don du cœur même du Christ. Et donc de la personne même de Jésus. C'est Jésus qui se donne, et qui se donne pleinement et totalement, qui se donne jusqu'au bout. Il ne garde rien pour lui. Le propre de l'époux, c'est de ne rien garder pour lui. Et Jésus comme époux, justement, veut nous faire comprendre, face à ces trois situations limites de l'homme, de l'enfant et de la femme, comment nous devons sévir cette jalousie de l'époux. Comment cette jalousie de l'époux reprend l'humanité dans sa plus grande fragilité, dans sa plus grande pauvreté, au moment où cette humanité ne sait plus où elle va, au moment où cette humanité n'a plus aucun sens de sa propre finalité, puisque c'est ça être en situation limite, vous savez bien. Philosophiquement parlant, on est en situation limite quand le conditionnement devient tellement lourd que notre finalité disparaît. Alors on est saisi par un conditionnement tellement lourd, tellement pesant, qu'on n'a plus le sens de notre finalité. Et on ne saisit plus la finalité. On est sous avalanche. C'est très facile à comprendre, ça, le problème de la situation limite. C'est lorsque vraiment la finalité n'arrive plus à émerger. Et alors on est saisi par un conditionnement tel que la finalité disparaît. Donc, c'est quand l'homme n'est plus capable d'aimer. Quand l'homme devient incapable d'aimer. Quand l'homme devient incapable de découvrir quelque chose qui lui permet de se dépasser. Et qu'il est entièrement enveloppé par son amertume, par sa misère, entièrement enveloppé dans son agonie, il meurt. L'époux, face à cette humanité qui est en situation limite, vient la sauver, vient lui redonner une capacité nouvelle d'aimer. C'est ce que fait Jésus pour la Samaritaine. Il vient de redonner une nouvelle capacité de vivre. va, ton fils vit. Et il redonne à cet homme, qui est enveloppé d'amertume, un nouvel élan de vie. Je crois que nous découvrons, à travers ces trois situations limites, les trois dimensions de la jalousie de l'époux, de la jalousie de son amour. Un amour qui reprend tout. C'est un amour qui recrée. Qui recrée en redonnant une vie nouvelle, en transformant tout. C'est là où nous voyons pourquoi, dans ce cycle de l'époux, Jésus se trouve en face de ces trois situations limites, pour que nous comprenions mieux. Si nous voulions aller jusqu'au bout de cette compréhension au point de vue théologique, il faudrait appliquer ce que saint Augustin nous dit. Tout l'évangile de saint Jean doit se comprendre dans la lumière du mystère de la croix, qui est sagesse. Et c'est dans la lumière du mystère de la croix, qui est sagesse, que nous devons comprendre tous les gestes de la vie apostolique de Jésus. Et c'est vraiment à la croix où nous découvrons à la fois le mystère de l'agneau et le mystère de l'époux. Et donc, ces trois situations limites doivent nous aider à comprendre le mystère de la croix. Cette année-ci, spécialement, année sainte, où on doit regarder le mystère de la rédemption. Eh bien, je crois qu'il y a là quelque chose de très beau et de très grand pour nous, pour saisir le mystère de la croix. À la croix, Jésus regarde l'humanité qui est dans la situation de la Samaritaine. Cette humanité qui ne sait plus où elle va, qui est errante, parce qu'elle n'adore plus. Une humanité qui n'adore plus est errante. C'est cette humanité-là que Jésus vient sauver. Réduite à la corvée d'eau en plein midi. Il serait intéressant à bien préciser ça. Cette humanité qui n'a plus qu'une seule chose à elle, la technique. Cette supériorité qu'elle a, la technique. Et c'est pas ça qui sauve. C'est pas ça qui redonne la capacité d'aimer. C'est cette humanité-là que Jésus regarde du haut de la croix. C'est cette humanité-là à laquelle il se donne comme époux. Vous avez Jésus qui regarde l'enfant qui agonise. Alors là, il y a quelque chose de très mystérieux. Si nous regardons attentivement le texte dans la lumière de la croix, nous savons, et Jésus nous le dit, qu'il vit le mystère de la croix dans l'obéissance au Père. C'est le Père qui a autorité. Le Père n'est pas le médiateur. Or ici, le Père est médiateur. C'est très rare qu'on voit un Père médiateur, je vous l'ai dit. Et c'est très important de le souligner. Parce que ça doit nous aider à mieux comprendre certains aspects sont toujours difficiles à comprendre parce qu'ils sont mystérieux et donc nous devons les éclairer avec des analogies différentes. Quand vous ne regardez qu'une seule analogie à l'égard du Père, vous voyez uniquement le Père qui a l'autorité. Mais vous savez bien que ça a été très loin ces derniers temps, hein, l'explication de Jung par rapport au Père qui exerce son autorité sur le Fils. Réponse à Job, hein. Ce petit livre qu'il faut lire, parce qu'il est extraordinaire. Il est extraordinaire comme incompréhension, et par le fait même, il doit nous aider. On regarde le Père comme exerçant l'autorité et Jésus uniquement obéissant. Il y a une autre analogie qu'on ne prend jamais et qui pourtant est suggérée dans saint Jean. Le Père médiateur. Quelque chose de tout à fait différent. Parce que le Père, quand il exerce son autorité sur le Fils, il l'exerce comme Père. Alors est-ce que c'est encore l'autorité ? On exerce autorité sur quelqu'un qui est plus faible, inférieur, qui a besoin. Quand il s'agit de Jésus, il est le Fils bien-aimé. Il est le Verbe devenu chair. Alors le Père exerce bien son autorité sur l'humanité sainte de Jésus, et Jésus obéit. C'est sûr. Mais attention, comprenons bien ce mystère d'autorité. Et c'est là où je me demande. Je dis je me demande parce que il faut toujours être très, très prudent quand on n'a pas un père de l'Église derrière. Hein. Quand on a un père de l'Église, si vous trouvez un texte de père de l'Église, là, ça m'intéresserait beaucoup. Mais je me demande qu'on ne doit pas se servir de ce passage qui est tellement étonnant. Ce père qui devient médiateur. Ce père qui exerce autorité, il est basileus, il est officier royal, il a l'habitude d'exercer l'autorité. Ce père qui exerce autorité devient médiateur. Et il devient médiateur en ce sens qu'il présente à Jésus son fils qui agonise. Alors, est-ce que nous n'avons pas là une analogie ? Je dis bien une analogie, pour nous aider à comprendre cette relation du Père à l'égard du Fils à la croix. Qu'est-ce que fait le Père à la croix ? Il présente l'humanité qui agonise. Qui agonise dans son âme. Qui ne sait plus qu'elle est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette humanité qui est dans un état d'errance, puisqu'elle n'adore plus. Et c'est cette humanité-là que le Père présente au Fils. Et Jésus offre sa vie pour lui redonner vie. C'est une recréation. Je crois que nous pouvons dire cela. Qu'il y a donc un rôle très mystérieux, très caché dans cette autorité du Père. C'est assez normal du reste. Hein, parce que plus l'amour est grand, plus l'autorité prend une modalité très spéciale. Et alors à ce moment-là, on exerce l'autorité en suppliant. On ne dit pas « faites ceci ». On dit « voyez ». Je vous en supplie, regardez. Voyez cet enfant qui meurt. Et ça devient une intercession. Et une intercession, c'est une médiation. Et alors, est-ce que de fait, lorsque nous parlons de l'autorité du Père et que nous parlons de l'obéissance du Fils, est-ce que nous ne devons pas tout de suite corriger et comprendre dans ce mystère de la rédemption, ce mystère du Père qui intercède, qui présente l'humanité dans son état d'errance, dans cette humanité qui agonise, qui ne sait plus où elle va. Et le Fils qui répond avec sa spontanéité d'amour, « Va ton Fils, vie !» Spontanéité d'amour, « Va ton Fils, vie !» C'est bien. Je crois à ce qui se passe dans cette recréation. Donc il y a là quelque chose d'important à souligner pour nous, au point de vue théologique, hein, puisque c'est dans la lumière de la croix que nous regardons cette rencontre de Jésus avec cet officier royal de Capharnaüm. Et puis, dernière fois, cette dernière manière de considérer Jésus face à l'humanité, parce qu'il représente bien l'humanité, l'humanité dans cet état de solitude. Cette humanité qui ne peut plus s'ennoblir elle-même. Cette humanité qui est dans la capacité de réaliser ce pourquoi elle est faite. Et qui est au milieu d'autres, qui à la place de l'aider, au contraire, la mettre dans un état de solitude et d'amertume. C'est cette humanité, dans cet état, dans cette situation extrême, dans cette situation limite, que Jésus, du haut de la croix, comme époux, regarde, et à qui il donne une vie nouvelle, qu'il recrée. Oui. Ça nous aide à entrer dans le mystère même de Jésus époux et de comprendre les dimensions de la jalousie de l'époux à l'égard de l'homme, de la femme et de l'enfant.
Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
C'est que dès qu'il s'agit du gouvernement divin, je suis dans la révélation. La création, elle est toute commune. Il y a quelque chose de commun entre la révélation et la recherche philosophique. Vous voyez que ce quelque chose de commun entre la révélation et la recherche philosophique, c'est la création. C'est pour ça que beaucoup de théologiens modernes rejettent la théologie. Parce que si vous rejetez le problème de la création au niveau théologique, en disant la création n'a rien à voir avec la théologie, vous refusez le point de rencontre de la recherche philosophique et de la foi. Je vous dis ça parce que ça rejoint avec ce cours foi et philosophie. Vous voyez, et nous trouvons ici comme base fondamentale le problème de la création. Alors évidemment, la foi le donne dans un mode symbolique, mythique si vous voulez, mais symbolique, tandis qu'au contraire, le philosophe, lui, c'est le logos. Alors vous avez les deux. Il ne faut pas faire d'opposition entre le bouton et le logos. Aujourd'hui, on peut faire au contraire un lien entre les deux en respectant la différence du langage symbolique de la foi et du langage intellectuel du philosophe. Je ne dis pas rationnel, intellectuel, le logos grec. Le logos grec, ce n'est pas la raison du philosophe. Voir, c'est autre chose. C'est de point de vue intellectuel. À partir du gouvernement divin, tout de suite, c'est le point de vue de la foi. Je ne rejoins absolument pas dans un langage philosophique ce qui m'est donné immédiatement par le gouvernement divin. Pourquoi ? Premier moment du gouvernement divin, la tentation avec le serpent. Vous comprenez bien que le serpent, il est absent du logos philosophique. Complètement absent. C'est le mouton dans toute sa sens. Hein. Le bouton le plus fondamental, c'est le serpent. C'est extraordinaire, Marcel. C'est intéressant. C'est le bouton le plus fondamental, c'est le serpent. C'est celui qui est complètement en dehors du logos. Complètement. C'est parti des traditions religieuses. Et ils font des traditions religieuses.
Alors, en cas de cette forme, c'est le R, le tutelle. La gentille tutelle en face du serpent, l'animal brisé, cette espèce d'intelligence renversée, comme la victime habituelle. Quand c'est ça la ruse, c'est l'intelligence renversée. C'est le mensonge. Face à ça. Et alors, Ève, qui échappe, Ève ne fait pas partie du logos philosophique. Aristote n'a jamais parlé d'Ève. Et Platon non plus. C'est très ennuyeux. Mais c'est merveilleux. Alors, je vais vous dire, le premier symbole, c'est Ève. Le premier symbole, c'est Adam. Voilà les deux premiers symboles religieux. C'est Adam et Ève. Les premiers mythes religieux. C'est pas en comprenant bien les deux premiers symboles religieux, c'est Adam et Ève. Et le troisième, c'est le serpent. Qui forme une communauté. Oui, c'est comme ça que vous rejoignez le cardinal Journet. N'oublions pas que le premier dialogue, c'est entre Ève et serpent, à l'intérieur de cette communauté qui a été faussée. On a été trouvé les remparts.